Le manche disque. L'émission qui tourne,
qui tourne, qui tourne, qui tourne.
À 33 tours minutes.
Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le manche disque sur Radio G, votre émission spéciale du disque vinyle. C'est Nico ce soir, je suis tout seul, une fois n'est pas coutume, parce que mon cher co-animateur Julien a eu un empêchement ce soir, rien de grave je vous rassure, simplement les aléas des week-ends à rallonge. Donc bah, Julien, si tu nous écoutes, et je n'en doute pas, je te fais un petit coucou et on va commencer en douceur avec une petite pépite soul funk.
Why I keep hearing footsteps, baby?
petit peu de sensualité pour démarrer cette émission. Puisqu'on s'écoutait, vous les aurez peut-être reconnus, les fameux Haile Brothers. Haile Brothers qui est un groupe funk, soul, un des plus samplés de l'histoire du hip-hop et un des plus successful aussi de son époque. On s'écoutait donc Footsteps in the Dark, issu de l'album Go For Your Guns de 1977. Album vraiment successful, hein, je le disais tout à l'heure, de nos Haile Brothers, double album de platine. Et le morceau que vous venez vous écouter, c'est aussi un des morceau qui marque clairement une évolution du style des Haile Brothers vers des chants de ballade slow tempo, moins funky, puisque c'était un petit peu la marque de fabrique, le côté funky et efficace dansant était un petit peu la marque de fabrique au début des Haile Brothers. C'est comme ça qu'ils se sont lancés dans le milieu et petit à petit, ils mettent de plus en plus de soul dans leur composition et de ce genre de ballade qui vont faire ensuite une évolution vers des albums qui vont être beaucoup plus portés là-dessus et qui seront, voilà, des albums de lover, comme on dit, un petit peu rapidement, mais toujours de qualité. Et cet album, ce morceau-là qu'on vient de s'écouter, donc Footsteps in the Dark, a été samplé notamment par Ice Cube, pour ceux qui aiment le hip-hop américain, le hip-hop US, pour un de ses tubes, It Was a Good Day. Voilà, un grand, grand souvenir des années 90. Donc on va balayer une époque ce soir avec les galettes que je vous ai sélectionnées. Effectivement, je le répète, je suis tout seul, Julien n'est pas là, mais il reviendra très vite, dans 15 jours. Donc je vous ai sélectionné des vinyles qui balayent une période de 19 ans, puisqu'on va aller de 77 avec ces Haile Brothers jusqu'en 96, en passant par des choses effectivement toujours dans l'esprit du manche-disque, c'est-à-dire éclectiques autant que possible. Une dizaine de titres donc dans cette émission, et une fois n'est pas coutume, on va écouter pas mal de 45 tours. C'est vrai que jusqu'à présent avec Julien, on vous a passé beaucoup beaucoup de 33 tours. Il faut dire que lui et moi sommes plus portés sur le grand format du disque vinyle. Vous savez que les 45 tours sont malheureusement des disques qu'il faut apprécier en un temps record de 5 minutes maximum par face et encore. Et alors que les 33 tours, ça vous permet au moins d'avoir une bonne 25-30 minutes parfois sur une face et qui vous force effectivement à retourner le vinyle. On l'a déjà commenté ici, cette temporalité spécifique au disque vinyle qui n'a rien à voir avec un CD par exemple qu'on peut s'écouter de bout en bout, et encore moins avec les playlists du dématérialisé aujourd'hui. Il y a vraiment une cohérence et il y a donc un forçage aussi d'un minimum d'attention, parce que si vous n'êtes pas attentif à ce qui passe, eh bien vous allez arriver à la fin de la phase sans avoir bien savouré chaque morceau. Alors les 45 tours, effectivement, c'est encore une autre temporalité, hein, parce que c'est vraiment un coup de punch d'un titre sur chaque face, donc que vous passez pour ça. Donc c'est surtout un format qui était très en vogue à l'époque du vinyle, hein, quand il y avait un tube vraiment qu'on voulait avoir et pas forcément tout l'album. Et puis aujourd'hui, c'est un support qui est privilégié notamment par les DJ, puisque eux, ils ont comme ça l'habitude d'enchaîner les titres sur deux platines. Donc le fait qu'il n'y en ait qu'un seul sur une face d'un vinyle ne les dérange pas. On pense aussi aux autres formats, même un peu plus grands, mais toujours avec un seul titre dessus. Donc les maxi 45 tours, les maxi 33 tours. Et donc ces 45 tours que je vous ai sélectionnés aujourd'hui, ce sont des petites pépites, hein. Le premier d'ailleurs n'est sorti que sur ce format-là, c'est celui qu'on va s'écouter tout de suite. Et attention, petite pépite un petit peu méconnue, c'est un 45 tours français qui est interprété par un certain Paul Martin. Alors Paul Martin, ça ne vous dit peut-être rien, mais finalement, quand on gratte un petit peu, on se rend compte que c'est une célébrité un petit peu plus connue du monde de la télévision qui se cache derrière ce pseudonyme finalement qui est Paul Martin. Et ce quelqu'un, c'est Jean-Pierre Castaldi. Et oui, Jean-Pierre Castaldi qui en 1977 a signé deux 45 tours en fait, dont celui-ci qui est le premier sous ce pseudonyme, donc Paul Martin, qui nous raconte finalement l'histoire de Paul Martin. Donc c'est une fiction, Paul Martin qui est imprimeur à Roubaix. Vous allez voir, il va le dire dans les toutes premières secondes de ce morceau. Et voilà, ça s'appelle Le troublant témoignage de Paul Martin. Et puis ça raconte donc sa rencontre un petit peu du troisième type avec un personnage mystérieux qui est une femme aux yeux orange. Je vous laisse savourer cette petite pépite envoûtante. J'espère qu'elle va vous envoûter et vous allez voir cette petite ritournelle qui s'incruste dans votre tête et qui va peut-être y rester. Nous sommes en 1977, Paul Martin alias Jean-Pierre Castaldi.
Je m'appelle Paul Martin. J'ai 34 ans. Je suis célibataire. Je travaille dans une imprimerie à Roubaix.
voilà donc pour ce long voyage en compagnie de Paul Martin et de cette fille aux yeux orange. Donc on a fait le plein, je pense, de rêves et de sensualité là pour l'instant. Je ne vous ai pas précisé, Paul Martin, donc la version qu'on vient d'écouter, c'est en fait la face B, hein, qui s'appelle « Paul Martin a-t-il rêvé ?» Et donc c'est le même arrangement finalement que la face A. Je l'ai choisi parce qu'il y avait une partie un petit peu plus psyché là, en plein milieu du morceau. Voilà, donc Paul Martin, donc Jean-Pierre Castaldi, a fait un deuxième 45 tours dans la même veine, mais beaucoup plus disco, l'année d'après, qui s'appelait Les yeux fermés. Voilà, pour les amateurs, vous pouvez vous mettre à la recherche de ces deux 45 tours. Moi, je me contenterai personnellement de celui-là. Le deuxième m'a paru un petit peu trop disco bling bling à mon goût, mais après, c'est l'affaire des goûts de chacun. En parlant de disco et de danse, j'ai le souci de ne pas trop vous endormir à cette heure tardive, même si je pense que c'est important de ne pas trop brusquer vos oreilles et de démarrer en douceur comme on vient de le faire. Mais je voulais passer à quelque chose de beaucoup plus sympathique en termes de rythme. Et quoi de plus sympathique en termes de rythme que la musique venue du Brésil, puisqu'on va s'écouter maintenant un morceau du très talentueux Marcos Valle. Marcos Valle, donc auteur, compositeur, interprète brésilien qui est passé un petit peu par tous les styles, bossa nova, samba, jazz. Il y a même un, si vous vous souvenez, je crois que j'en ai passé ici, un opus de Jazz is Dead. Vous savez, c'est cette collection de vinyles qui retrace, en fait, qui fait l'apologie donc, de certains grands géants du jazz à travers un festival qui a eu lieu aux États-Unis. Qui s'appelait Jazz is Dead, justement, qui démontre justement que le jazz n'est surtout pas dead. Et donc le troisième opus de cette collection était consacré donc à Marcos Valle, qui a balayé, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup beaucoup de styles, et s'est intéressé aussi à la façon dont il pouvait composer des titres dansants, toujours inspirés de façon merveilleuse par la musique brésilienne. Donc, je vous ai sélectionné un album de 1983. Vous savez, donc on va un petit peu plus loin que 1977, qui était l'année des deux morceaux que l'on vient de s'écouter. Donc, 1983, Marcos Valle interprète un tube qui s'appelle Estrellar. On s'écoute ça tout de suite.
Tem que malhar.
Vamos lá.
Musculação, respiração, ar do pulmão.
Vamos lá.
Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar.
Vamos lá.
Um, dois e três, é sem parar. Mais uma vez.
Verão chegando.
Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol.
Domingo é dia.
De um tititi a mais e de bumbum pra trás.
Verão chegando.
Quem não se endireitar, não tem lugar no sol.
Domingo é dia.
De um tititi a mais e de bumbum pra trás. Respiração, ar no pulmão.
Vamos lá.
Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar.
Vamos lá.
Um, dois e três, é sem parar. Mais uma vez.
Verão chegando.
Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol.
Domingo é dia.
De um tititi a mais e de bombo pra trás.
Verão chegando.
Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol.
Domingo é dia.
De um tititi a mais e de bumbum pra trás.
Vem, vem.
malhar. Musculação, respiração. Tem que esticar, tem que encaixar. Um, dois e três, é sem parar. Tem que correr, tem que suar. Musculação, ar no pulmão. Tem que esticar, tem que dobrar. Um, dois e três, mais uma vez.
Ah, qu'est-ce qu'il fait du bien ce petit Marcos Valle qui nous a bien bien réveillé là et qui nous a réchauffé aussi hein, parce que par ces temps très froids, un petit peu de samba do Brasil, ça fait toujours toujours un petit peu plaisir, on a envie de danser, on a envie de se faire un cocktail même à cette heure-ci, pourquoi pas, ça vous aidera peut-être à dormir, enfin bref, voilà, vous êtes à peine remis de votre soirée Halloween de folie, maintenant il est temps d'envisager le retour au travail, donc autant se remonter le moral dans les heures de liberté qu'il vous reste, même quitte à vous priver un petit peu de sommeil, ce n'est pas grave. Peut-être demain sera la fin du monde. Et pourquoi je dis de la fin du monde? Parce que maintenant, on va retomber dans une pépite 45 tours absolument surréaliste. Une pépite encore de France qui s'appelle Sound Force. Ça fait pas très français, mais derrière Sound Force se cache un certain Gaïa. Et là, ça va faire beaucoup plus français puisque Gaïa n'est autre que le fils de Gilbert Bécaud. Voilà. Son père étant beaucoup plus connu que le fils, je me permets de le citer, même si vous allez voir, ça n'a rien à voir en termes de style. Donc Sound Force signe ce 45 tours qui s'appelle The Fin du Monde, issu d'un album qui sera le premier d'ailleurs de Gaïa du même nom. Donc l'album s'appelle aussi The Fin du Monde. Et il y aura trois albums en tout. Ce 45 tours, il date de 1979. Donc tout à l'heure, on était en 1983 avec Marcos Valle. Là, on revient un petit peu en arrière en 1979. Vous allez voir, c'est un style électronique, expérimental. Sur le thème justement de la fin du monde. Donc on entend un speaker finalement qui essaye d'annoncer la fin du monde à une foule tellement joyeuse, apparemment tellement en train de faire la fête qu'elle ne veut rien entendre. Il a toutes les peines du monde pour se faire comprendre et pour justement faire en sorte que la gravité de la situation soit réalisée par cette foule en délire qui a visiblement décidé, quitte à mourir, à le faire en chantant, en dansant, en faisant la fête. On s'écoute ça tout de suite.
Bon, c'est la fin du monde. Je vous jure que c'est, tout est fini, c'est foutu. On va mourir. Non, mais merci, merci. Attendez. Oui, merci, merci beaucoup. Yeah, yeah, yeah. Comment? Non, non. Oh, merde. D'ailleurs, yep, c'est fini. Les tabacs sont fermés, il n'y a plus d'essence, c'est la guerre. Il va y avoir la bombe qui va sauter là. Oui, merci, merci. Merci. c'est vous. Non. Oh. Écoutez. Les avions ennemis arrivent. Les avions, la bombe va sauter dans peu de temps. Nous allons tous mourir. Et il n'y aura plus personne de vivant. Ce sera complètement. Ce sera la fin totale. C'est impossible de faire. Oui. Non mais écoutez. Oh, pas quoi faire. Allô. Ah ben il m'entend pas là, hein. Il m'entend pas. Allô. Allô. 1, 2, 2, allô, ça marche. Allô. Mesdames et messieurs, c'est la fin du monde. C'est foutu. On va. Allô. Voici une annonce importante. Oh. Merci à tous. Merci. Voilà, nous allons mourir dans une minute. La bombe atomique va exploser ici même. Nous sommes à l'épicentre de la bombe. Il m'entend pas là, qu'est-ce qui a coupé le micro? Oh, merci. Ah voilà, allô. Allô, la bombe va exploser bientôt. C'est pas possible, personne m'entend ici. Tout le monde s'en fout alors, merde. On est marre. Ne pas gueuler ça pendant 2 heures, merde.
walking so well. Duck and I sway.
What's my love?
I shoot at the full moon.
What's my love?
So what's my line? Shake it, shake it, baby. Shake it, shake it. Cause love is the answer. Love's talking to me. I'd scream and I'd fight for you. You're better than money.
Du tout animer cette émission tout seul sans faire un clin d'œil bien sûr à Julien, mon comparse de toujours au manche disque, en passant un petit, vous l'aurez reconnu, David Bowie, puisque David Bowie c'est Dieu pour Julien. C'est toujours le clin d'œil qu'il faut lui faire, en tout cas si vous voulez lui offrir quelque chose, lui dédicacer un morceau avec Bowie, vous tomberez toujours juste avec Julien. Donc voilà, c'est ce que je fais par sécurité. Pas n'importe quel David Bowie, puisque c'est un morceau issu d'un album important, je dirais, dans sa carrière, important en termes d'audace, en termes de style, en termes aussi de virage artistique et commercial, puisque c'est un album qui, il me semble, lui a rapporté un petit peu d'argent. Cet album, c'est Let's Dance. Let's Dance, album phare donc de David Bowie, qui marque aussi sa collaboration avec un autre grand de la musique, aussi bien à la guitare qu'à la production, j'ai nommé Nile Rodgers. Donc Let's Dance, c'est 1983. Hop, nous revoilà la même année que Marcos Vallée précédemment. Donc 1983, 15e déjà album de David Bowie, premier chez EMI, donc album donc vraiment dans l'air du temps, vous l'avez entendu, des années 80, donc de 1983, et c'est un disque, je l'ai dit, clairement, qui était volontairement taillé pour le succès. Et le succès, eh bien, il l'a connu avec des singles mythiques comme Modern Love, China Girl et surtout Let's Dance, qui a fait danser le monde entier à l'époque. Donc ils se sont pas trop foulés, hein. Ce sont les trois premiers morceaux de l'album. Donc ils ont dit, tiens, les singles qu'on va sortir, bien sûr, ça va être les trois. Voilà, Without You aussi, je crois, est sorti en single, hein. Un petit peu moins de succès que ses prédécesseurs, mais voilà, un gros album. Donc la tradition du manche disque n'étant pas de diffuser les tubes de chaque galette, mais plutôt être dans la découverte. Mais pour autant, je voulais aussi vous faire croquer dans cette saveur particulière de cet album dans l'œuvre de Bowie. Et donc, je me suis dit que ce dernier petit morceau de l'album qui s'appelle Shake It était assez représentatif, puisqu'on a l'impression que c'est un espèce de Let's Dance modifié, voilà, avec un autre chant, mais on a les mêmes marqueurs, on va dire, les mêmes marqueurs sonores et musicaux que Let's Dance, le titre que tout le monde connaît. Si jamais par défaut, par trou de mémoire, vous ne le situez plus dans votre mémoire, eh bien, allez le chercher très vite sur les plateformes dématérialisées ou ressortez le vinyle de votre discothèque. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous a plu, l'espèce d'ovni qu'on a écouté juste avant. Souvenez-vous, Sound Force de Gaïa, donc The Fin du Monde. Mais j'espère que ça vous a plu, parce que maintenant, j'ai décidé de vous diffuser la phase B, qui s'appelle Viva la Dolce Vita, parce que c'est vrai qu'il faut aussi se rendre compte, puisqu'on n'a que deux titres pour se faire une idée de l'œuvre de ce cher Gaïa, donc fiston de notre ami Gilbert Bécaud national. Je vous propose d'écouter la phase B, qui est un petit peu dans un autre style, peut-être un poil moins expérimental, mais toujours tout à fait savoureux de mon point de vue, qui s'appelle Viva la Dolce Vita.
La Dolce Vita.
Et voilà encore ce cher Gaïa dans un autre style, celui-ci peut-être mettant plus en avant les expérimentations électroniques que le morceau précédent. Mais voilà, donc un style bien bien à lui, hein, qui je suis sûr ne vous aura pas laissé indifférent, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, parce que je pense que s'il y a parmi vous des personnes qui pensent à juste titre que c'est une jolie petite découverte, en tout cas que ça a le mérite de sortir un petit peu du lot de ce qu'on peut connaître de notre cher patrimoine français. Pour d'autres, peut-être qu'il s'agira d'abréger leur souffrance. Donc je vous rassure, il n'y aura plus de Gaïa pour la suite. On va retomber dans quelque chose peut-être de plus confortable et de plus évident pour nos oreilles, à savoir de la pop, mais de la bonne pop. Pop d'ailleurs, d'un groupe que souvent est classé dans le rock, hein, parce qu'ils ont aussi quelques guitares bien intéressantes dans leur son. Mais enfin, pour moi, ça reste vraiment un groupe emblématique de la pop musique, mais dans le très 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 bon sens du terme, pas du tout dans le caractère commercial et facile, et trop facile, que peut parfois revêtir ce style de la pop. Là, nous sommes sur un groupe qui s'appelle Pulp. Donc Pulp, c'est un groupe donc de pop rock pour certains, anglais, originaire donc de Sheffield et mené par le génialissime Jarvis Cocker, voilà, qui a connu notamment le plus fort de leur succès avec un album qui s'appelle Different Class. Different Class, qui est un album qui reflète aussi les problématiques sociétales dont aime parler Jarvis Cocker dans ses chansons, donc cette espèce de working class hero, avec cette idée donc de parler de l'Angleterre qu'il connaît, du Sheffield même parfois qu'il connaît, à travers des chansons qui racontent souvent des souvenirs d'enfance, et en tout cas des expériences que lui peut, très concrètes, hein, et très simples surtout, mais qu'il arrive à déplier comme ça dans des textes d'une poésie fantastique et avec des musiques tout aussi intéressantes et entraînantes, et aussi qui vous gravent justement ces morceaux dans la mémoire, qui vous font les chantonner encore et encore. Donc on va s'écouter un de ces morceaux qui s'appelle Disco 2000. Donc Disco 2000, Disco 2000 en anglais. C'est un morceau qui fait partie des tubes, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément l'habitude du manche-disque, mais je dirais que pour un groupe comme Pulp, on n'est pas non plus dans quelque chose quand même de ultra ultra connu, si ce n'est pour les amateurs connaissent tout par cœur, bien sûr. Il y a une fanbase absolument spécialiste, hein, de Pulp, mais enfin on peut se faire plaisir avec ce classique de Pulp, avec un des singles donc successful de cet album, qui je le crois, même si je suis pas forcément à étudier les lyrics dans le texte là pour des morceaux comme ça, mais je crois que ça raconte une histoire d'amour entre Jarvis et une amie d'enfance, en tout cas voilà, à l'époque où ils étaient adolescents certainement, et quelqu'un qui était très très populaire, mais lui ne l'était pas assez, et donc ne pouvait pas l'impressionner comme il l'aurait voulu. Donc ce morceau lui a été inspiré par ce genre d'expérience frustrante, d'avoir l'impression de ne pas faire partie du même monde, hein, que certaines personnes qui pourtant vous fascinent et vous rendent amoureux. Donc on va s'écouter ce Disco 2000 de Pulp. Sister and brother. Se mentir, hein. Si je vous ai choisi ce morceau, hein, c'est parce que c'est aussi un de mes morceaux préférés de Pulp. Tout simplement, voilà, tout simplement. C'est pour ça que des fois, on fait des petites incartades, on passe des tubes, mais c'est des tubes tellement, tellement qui font du bien que, voilà, on va pas s'en priver. C'est d'ailleurs le cas du morceau qui va suivre, hein, puisque c'est un morceau. Alors là, on était en 95, hein, je l'ai dit tout à l'heure, donc on a fait vraiment un grand saut dans le temps. Au début d'émission, on était beaucoup dans les années fin 70, début 80. Là, on était en 95. Eh bien, on va rester dans cette période de moitié des années 90 avec un album de 96 qui s'appelle Fashion Nugget, qui est du groupe Cake qui a vraiment marqué les esprits, hein, quand cet album est sorti, donc Fashion Nugget, qui était leur deuxième album studio. On n'avait pas trop entendu parler du premier, mais avec celui-là, ils ont vraiment mis un grand coup de pied dans la fourmilière avec des morceaux énormes, hein, qui passaient à la radio un petit peu tout le temps. Donc c'est un groupe américain, Cake, hein, de Sacramento. Et on en parle souvent comme d'un groupe de rock alternatif, mais les influences sont tellement, tellement grandes dans leur son que c'est un petit peu difficile, en fait, hein, de les classer. Donc si on peut tomber d'accord sur le côté alternatif, peut-être un peu moins les caser complètement dans la case rock, hein. Bon, voilà, ils ont eu une carrière un petit peu en dents de scie avec une perte de vitesse juste après ce gros succès qui a été Fashion Nugget, hein, puisque certains musiciens majeurs ont quitté un petit peu l'aventure, voilà, avec ce succès. Et mais voilà, leur leader John McCrea, il a quand même réussi à rebondir ensuite, puisqu'ils nous ont proposé deux gros albums, hein. Donc Prolonging the Magic, qui portait bien son nom, hein, qui a permis de prolonger un petit peu la magie et la rampe de lancement de ce Fashion Nugget en 1998, et puis ensuite Comfort Eagle en 2000, qui aussi a comporté aussi un certain nombre de succès. Mais enfin là, voilà, c'était avec cet album Fashion Nugget qui nous arrivait dans les ondes et dans les oreilles. Je vous ai choisi donc encore un morceau un petit peu connu de cet album, mais tellement bon, parce que s'il est connu, c'est d'abord parce qu'il est bon. C'est un hommage de façon bien originale à une légende de la musique qui s'appelle Frank Sinatra, et c'est un morceau qui s'appelle Frank Sinatra de Cake en 1996. Oh,
truth beyond your latest ad campaigns. An old man sits collecting stamps in a room all filled with Chinese lamps. He saves what others throw away. He says that he'll be rich someday. We know of an ancient radiation that haunts dismembered constellations, a faintly glimmering radio station. Radiation that haunts dismembered constellations, a faintly glimmering radio station. While Frank Sinatra sings stormy weather, the flies and spiders get along together. Cobwebs fall on an old skipping record.
Souvenir avec ce morceau de Cake. D'ailleurs, on est un peu foufou. On va s'enchaîner le morceau suivant qui s'appelle The Distance, qui est aussi le deuxième gros tube de cet album qui les a vraiment lancés. Je le laisse un petit peu en arrière-plan. Le temps de se dire au revoir. On va se manger 2 minutes de The Distance. Je vous ai pas dit que cet album de Cake's Fashion Nuggets était vraiment, vraiment difficile à se procurer en version originale, hein, puisqu'il atteint des chiffres. Des sommes à 3 chiffres plutôt. Je sais pas pour me la raconter, hein, je voulais passer en vinyle, mais c'est parce que j'ai moi-même acheté un bootleg. Le bootleg, ce sont ces contrefaçons, en tout cas ces versions non officielles qui parfois sont de qualité médiocre, mais celui-ci, eh bien écoutez, je vous le conseille, même si je sais pas si ça se fait trop au niveau légal de conseiller des versions non officielles, mais en tout cas voilà, au manche disque c'est le vinyle qui prime, et voilà, donc si c'est l'objet, eh bien je peux vous dire qu'il est de qualité. Voilà, alors on se lâche avec The Distance, on se dit à dans 15 jours, cette fois-ci nous serons deux, nous aurons le plaisir de retrouver, pour le plaisir de vos oreilles avant tout, Julien à mes côtés, ciao.
Flashbulbs, no wine. He's haunted by something he cannot define. Bowel-shaking earthquakes of doubt and remorse assail him, impale him with monster truck force. In his mind, he's still driving, still making the grade. She's hoping in time that her memories will fade, 'cause he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. The sun has gone down and the moon has come up, and long ago somebody left with the cup, but he's striving.